chers auditeurs de notre radio, je vous souhaite la bienvenue et j'ai un grand plaisir aujourd'hui de partager avec vous un bon moment avec Georges Bonneba, historien, qui va nous parler d'un saint chartrain, ou peut-être pas un saint chartrain, il va nous parler de Thomas Becket. Bonjour Georges Bonneba.
Oui, bonjour.
Vous allez donc nous faire découvrir ce saint auquel on a voué dans la cathédrale un vitrail.
Oui, un vitrail légendaire en bas, et puis aussi un vitrail dans une rose du bas-côté nord, à l'étage supérieur, et puis aussi un petit groupe sculpté dans le sur le pilier ouest du porche sud de la cathédrale. Hein. Il y a là trois ensembles qui ne se répètent pas. Il ne se répète pas dans les sculptures du pilier. Nous avons une représentation qui est tout à fait classique parce qu'on la trouve ailleurs aussi bien sculptée que peinte ou en émail en particulier. Il s'agit simplement de la scène du meurtre devant l'autel. Thomas Becket y est agenouillé devant et deux chevaliers seulement dans la réalité, ils étaient quatre, on en connaît les noms, procède à l'assassinat. Dans la verrière haute à la cathédrale, dans la rose, là il s'agit de tout autre chose. Et Thomas Becket y reçoit un traitement tout à fait spécifique. Il est présenté donc avec les ornements archiépiscopaux, il porte le pallium et il est assis sur son trône. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le vitrail en question a un fond rouge et non pas un fond bleu comme les autres. Ce fond rouge étant aussi celui qui orne la rose qui lui fait face de l'autre côté, au bas côté sud, donc à l'étage supérieur, celui du Christ. Étant entendu que là, très classiquement, on y voit évidemment la couleur du martyr, la couleur de la passion. Mais ce qui est plus original, c'est la présence de deux chevaliers faisant la genuflexion de part et d'autre de lui. L'un est peint en blanc, l'autre est peint en bleu, c'est-à-dire que l'un porte une des couleurs de la Vierge, Marie, l'autre chevalier porte la deuxième couleur de la Vierge Marie, donc en bleu et en blanc, et il s'agit très vraisemblablement donc d'une rose appartenant à la série d'images de l'ordre chevaleresque, l'ordre militaire, qui passe pour avoir été fondé par Philippe Auguste en 1180, Richard Cœur de Lion. Philippe Auguste l'accompagnait à cette époque, à la croisade, et qui a été réformé pour devenir, à partir de 1236, un ordre militaire ayant adopté, sur l'ordre du pape, les statuts de chevaliers teutoniques. Et à cela, en plus, évidemment, il faut ajouter la verrière légendaire qui se trouve donc dans la chapelle du collatéral sud de la cathédrale.
Alors, c'est peut-être le moment, comme vous avez donné des dates, de retracer un peu la vie de Thomas Becket.
Oui, effectivement, cette vie. Alors, le vitrail légendaire en est la parfaite illustration. C'est un vitrail qui est très strictement chronologique. Il n'y a rien là-dedans de légendaire. On nous rapporte les principales étapes de la vie à partir de sa désignation comme archevêque de Canterbury, avec les divers épisodes de ses rencontres avec le roi d'Angleterre Henri II, avec le roi de France Louis VII, avec le pape Alexandre III, avec évidemment, hélas pour lui à la fin, la rencontre avec les chevaliers qui l'ont assassiné. Voilà. Alors, Cette biographie, à cette biographie en images, il manque évidemment toute la période antérieure à sa désignation comme archevêque de Canterbury, c'est-à-dire donc la période antérieure à 1162. Alors, si l'on veut se repérer un peu dans le temps, notre Thomas Becket est un anglo-normand, un peu plus normand que anglo d'ailleurs, hein. Sa maman Mathilde est originaire de Caen, son père est originaire de Rouen. Ce sont des marchands merciers, dont on va dire en gros des marchands de tissus, des marchands de draps, des marchands de fourrures éventuellement aussi, parce que on est multicasquette au Moyen-Âge, hein. C'est pas toujours extrêmement cloisonné, surtout quand on est marchand. Et lui, Thomas, naît à Londres. Ce qui fait que quelquefois, dans la documentation de l'époque, on lit qu'il s'appelle Thomas de Londres. Voilà, tout simplement. Alors, il a fait ses études jeunes et semble-t-il brillantes, d'abord à Londres, au collège de Merton, et puis ensuite il a été envoyé à Paris, où là il a écouté les leçons des maîtres de parisiens de cette époque, dont quelques-uns d'ailleurs sont passés par Chartres, hein, je pense à Guillaume de Conche, je pense à Gilbert de la Porée, je pense à Thierry de Chartres, par exemple. Il a fréquenté, semble-t-il, beaucoup l'école de l'abbaye de Saint-Victor à Paris, si l'on en juge par le fait que c'est l'abbaye qui possède le plus de reliques provenant de sa garde-robe. Hein. Et il est devenu, après ces solides études, il est devenu le clerc de l'archevêque de Canterbury. Nous sommes à ce moment-là en 1143. Il a perdu sa mère entre-temps, en 1140. Et il est tellement brillant aux côtés de l'archevêque de Canterbury, Thibault, que celui-ci lui propose, après l'avoir doté de bonnes prébendes, hein, comme on fait à cette époque, il l'envoie faire des études complémentaires à Rome. Donc là, il va fréquenter les membres de la curie romaine, puis à Bologne. Et là, il va entendre les leçons du fameux moine Gratien, qui est en train de compiler ce que l'on appelle le décret, c'est-à-dire de constituer un ensemble de textes tirés des textes sacrés, des textes des pères de l'Église, des textes conciliaires anciens, de façon à définir la juridiction de l'Église. Mais à ce personnage, il faut ajouter un autre qui va jouer un rôle déterminant, c'est l'évêque de Bologne qui joue aussi au professeur localement à Bologne, et lequel évêque de Bologne sera un petit peu plus tard, ni plus ni moins, que le pape Alexandre III. D'où les bonnes relations au départ, au moins, entre le pape Alexandre III, du moins un des deux papes, puisqu'il y en a deux à cette époque, hein, et Thomas Becket. Donc, il fait là un complément de formation, il devient un canoniste émérite, lui aussi, et à ce titre, on peut penser qu'il a profondément médité les leçons tirées de la lecture d'Yves de Chartres, hein, qui est aussi un auteur de référence, et il termine ce nouveau cycle de formation dans le royaume de France, dans la province ecclésiastique de Sens, à Auxerre, où là il achève ce cycle avant de retourner là-bas en Angleterre.
On fait une petite pause musicale. Georges von Bach est avec nous et nous raconte la vie de Thomas Becket, ce saint martyr que nous voulons découvrir comme saint chartrain et savoir en quel sens c'est un véritable saint chartrain. Et Georges von Bach a retracé déjà une bonne partie de la vie de Thomas Becket et nous avons découvert qu'il est en lien avec tous ces grands noms que nous connaissons à Chartres.
Oui, on en est arrivé à l'époque où il va retourner en Angleterre. Nous sommes en 1154 et c'est bien à ce moment-là parce que la date coïncide avec la fin du règne de la famille des comtes de Blois sur le trône anglais. Le roi Étienne Henri vient de disparaître et il a désigné pour lui succéder, eh bien, le Plantagenet, Henri II. Voilà. De fait, il semble bien que à cette époque, Henri II et Thomas Becket se soient liés d'amitié et une amitié solide. Sans doute né autour, évidemment, des fréquentations de Thibaut du Bec, l'archevêque de Canterbury, mais aussi à la passion de Thomas Becket pour la chasse et pour quelques activités qui ne sont pas, a priori, vraiment...
Des caractéristiques
de la vie d'un ecclésiastique. Bien, quoi qu'il en soit, eh bien... il devient archidiacre de Canterbury. À cela, il n'y a guère eu d'opposition hein, dans le monde ecclésiastique anglais de cette époque. Il est évidemment là aussi en relation avec d'autres personnage que je vais dire chartrain, mais c'est au sens un petit peu plus large, il a le soutien à cette époque d'évêques qui viennent du comté de Blois et de Chartres. Il a le soutien de Henri de Blois, l'évêque de Winchester. Donc Henri de Blois, encore un des rejetons de la famille des comtes de Blois et de Chartres, mais là aussi le soutien de Hugues du Puiset, qui est l'évêque de Durham à cette époque, et donc qui est un des rejetons de la famille des Vidames de Chartres. Hein, c'est du beau monde, il fréquente vraiment du beau monde et en se rappelant qu'à cette époque nous sommes dans une zone où l'on parle l'anglo-normand, très proche d'un bon français médiéval, eh bien il est très facile pour les uns et pour les autres de communiquer. Nous ne parlons pas, enfin à cette époque, on ne parle pas encore vraiment anglais. Au moins dans l'élite. Hein, ça va durer jusqu'au début du XIVe siècle, de parler français, comme on disait. Bon, donc le voilà, archidiacre de Canterbury, mais surtout, il a droit à une superbe promotion. Ses talents littéraires, ses talents d'organisateur font que Henri II le désigne comme son chancelier. C'est-à-dire donc à la fois son secrétaire particulier, mais aussi son garde des sceaux. Bon. À cela, il faut ajouter que l'amitié qui le lie à cette époque avec Henri Plantagenet, Henri II Plantagenet, a pour conséquence que non seulement donc il en fait un homme d'État, autant le dire, mais il en fait aussi le précepteur et le tuteur du fils aîné, Henri le Jeune, donc le grand frère de Richard Cœur de Lion, voilà, mais qui n'y régnera pas. Et là aussi naît une relation qu'on pourrait dire filiale entre le fils du roi et Thomas Becket. Au point d'ailleurs que lors de la crise, eh bien, le fils Henri le Jeune a pris quelquefois le parti de son tuteur et précepteur plutôt que le parti de son père. Lorsque Thibaut Dubec disparaît, eh bien, la place d'archevêque de Canterbury est libre. Alors, la place d'archevêque de Canterbury, c'est pas n'importe quel archevêché. C'est pas l'archevêché d'York, par exemple. Or, l'archevêque d'York de l'époque aurait bien aimé avoir une promotion. Hein, ça, c'était dans l'ordre normal des choses. Non, il n'a pas eu la fonction. C'est à la demande, en dépit de l'opposition du chapitre cathédral de Canterbury à cette époque, à la demande du roi, express, que Thomas Becket a été désigné, puis élu, comme archevêque de Canterbury. Évidemment, ça faisait problème parce qu'il n'était que clerc. Il n'avait pas accédé aux ordres majeurs, il n'était pas prêtre, et donc il a fallu d'abord une ordination à la prêtrise, puis ensuite une consécration comme évêque, et enfin se faire attribuer par le pape le pallium archiépiscopal, qui de plus permet la plupart du temps d'obtenir les fonctions de légat du pape en Angleterre. À cela s'ajoute enfin, pour qu'on se représente un peu le bouleversement statutaire que cela peut représenter, que l'archevêque de Canterbury est de droit primat d'Angleterre, donc le chef de l'Église d'Angleterre.
Alors ça posait un problème puisqu'on lui reprochait son mode de vie.
On lui reproche son mode de vie, on lui reproche sa carrière antérieure. Et comme souvent, les néophytes, les néo-convertis se montrent bien plus radicaux que les gens d'expérience dans le statut. Et je crois que c'est un des éléments d'explication parce que il va radicalement, mais vraiment radicalement, changer de vie et d'opinion à l'égard des relations entre le monde temporel et le monde spirituel. Alors nous voilà donc arrivés en 1162. Justement, là éclate la crise du double pontificat à Rome. Deux papes, Victor IV, qui est un pape pro-impérial pour l'empereur, et puis un pape anti-impérial, Alexandre III. Et Alexandre III, je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ancien professeur de Thomas Becket. En conséquence, lorsqu'il vient chercher des soutiens dans le royaume de France et éventuellement dans le royaume d'Angleterre aussi, eh bien, il lui faut tomber sur des gens de confiance. Un de ses anciens élèves était là, un de ses anciens étudiants. Et directement... fort sans doute de l'enseignement reçu par Alexandre III du temps où il enseignait à Bologne, eh bien Thomas Becket prend le parti d'Alexandre III. L'attitude semble parfaitement cohérente. Et donc, on se retrouve là, maintenant, le 10 août 1162, un concile se déroule à Tours et Alexandre III confirme donc le pallium archiépiscopal de Thomas Becket.
Qui prend le parti donc du pape et il veut
du pape Alexandre III.
Alexandre III et il soutient
impérial
et il soutient la réforme grégorienne. Peut-être ce serait bien de rappeler le
effectivement un des
de
piliers
réforme.
Un des piliers de la réforme grégorienne. Eh bien cette l'Église de cette époque est partagée en deux pour l'essentiel du point de vue de la relation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Les uns, du côté du parti impérial, aimeraient bien restaurer l'ordre carolingien, c'est-à-dire que l'Église ne s'occupe que d'affaires spirituelles et l'empereur, lui, par ailleurs, s'occupant de tout le temporel, y compris d'ailleurs jusque dans les états pontificaux, hein, la fameuse donation de Saint-Pierre, bon, et le patrimoine de Saint-Pierre. De l'autre côté, eh bien, dans la lignée de la réforme, de ce qu'on appelle la réforme grégorienne, eh bien, le désengagement de l'Église des affaires temporelles, on a approfondi les problèmes posés par ce désengagement en plaçant le pouvoir spirituel au-dessus du pouvoir temporel. Mais vous comprendrez bien que à cette époque, dans le système féodal ou plus exactement féodo-vassalique, si on accepte le point de vue impérial, ça signifie que le roi de France serait roi de France du fait de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, que le roi d'Angleterre serait lui aussi le vassal du Saint-Empire romain germanique. Or, ni l'un ni l'autre ne le souhaite. En conséquence de quoi ? Eh bien, Alexandre III, à Tours, nous sommes là dans les terres plantagenais, mais en même temps dans le royaume de France, va trouver les soutiens qu'il espérait. D'où la facilité avec laquelle il a confirmé le pallium archiépiscopal de Thomas Becket. Mais rapidement, dès 1164, eh bien, les premiers grincements dans les relations entre Alexandre III et Thomas Becket vont commencer à se faire entendre. Le jeu aussi du roi d'Angleterre et du roi de France de l'autre côté n'est pas simple, parce que l'un et l'autre se retrouvent alliés de circonstances par rapport aux problèmes posés par la double papauté, mais ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Ne serait-ce évidemment, il faut se rappeler que Henri II, le roi d'Angleterre, pour épouse l'ancienne épouse du roi de France, Louis VII. Aliénor d'Aquitaine. Donc, il y a là de bonnes raisons pour que l'un se méfie de l'autre et vice-versa. Et que, dans ce petit jeu, eh bien, le pape Alexandre III cherche bien évidemment à conserver l'appui de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que on peut, maintenant avec le recul, on le voit mieux, tout en ayant accordé sa confiance à Thomas Becket, cette confiance, un jour, s'arrêtera. Parce qu'il vaudra bien choisir entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Et donc, au passage, ben évidemment, ben notre brave Thomas Becket, à cette époque, risque de passer à la trappe. Et c'est ce qui, finalement, est arrivé. À partir de 1167, donc 3 années avant son assassinat, le pape Alexandre demande à Thomas Becket, on dirait aujourd'hui de mettre un peu d'eau dans son vin, de se montrer moins intransigeant, de négocier tranquillement, d'accepter les exigences de ce que l'on appelle les constitutions de Clarendon, c'est-à-dire ces 16 articles qui remettaient les pendules à l'heure en Angleterre relativement au statut des ecclésiastiques, entre autres, aux biens d'église, qui mettaient un terme aux exemptions fiscales, aux immunités judiciaires. Et situation qui, d'ailleurs, était le résultat, peut-on dire, d'un certain laisser-aller du temps du prédécesseur de Henri II, c'est-à-dire du roi Étienne Henri. Voilà comment ça se passe. Or, en 1167, Thomas est en France, à l'époque. Thomas est en France, en 1167, il s'est réfugié à Sens, donc, dans l'abbaye royale de Sainte-Colombe, sous la tutelle de Guillaume au Blanchemain, l'ancien évêque de Chartres devenu archevêque de Sens avant de devenir archevêque de Reims, et il a passé déjà quelque temps dans le même secteur puisqu'il avait été accueilli entre 1164 et 1166 à l'abbaye cistercienne de Pontigny. Mais le roi d'Angleterre ayant menacé les cisterciens de représailles en Angleterre, il avait été contraint d'abandonner le site de Pontigny. Dès lors qu'il se trouve là en situation un peu délicate, eh bien, le roi Henri II, lui, par contre, peut poursuivre son travail de sape, c'est-à-dire de remise au pas de l'évêque.
Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cette première émission consacrée à Thomas Becket. Merci beaucoup à Georges Bonneba de nous avoir présenté une première partie de cette vie très intéressante de ce saint chartrain que vous allez découvrir encore plus en détail avec Georges Bonneba dans notre prochaine émission. À très bientôt.